Vous écoutez l'émission Une heure en Palestine qui vous est proposée chaque mercredi de 18h à 19h sur Radio Galère. Cette émission vous est proposée par des associations qui soutiennent le peuple palestinien dans son combat pour la justice. Aujourd'hui, c'est Palestine 13 qui vous accompagne pendant une heure. Palestine 13 est la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, la FPS. Palestine 13 a un site internet et une page Facebook qui sont mis à jour quotidiennement et qui vous posent des informations d'actualité, de réflexion historique pour comprendre des informations culturelles et sportives et vous invite à participer à des actions, à signer des pétitions et à vous engager dans la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, car bien sûr, Palestine 13 est membre du collectif BDS, initié par les Palestiniens, en référence avec le boycott de l'apartheid en Afrique du Sud. Et nous avons besoin de faire des actions BDS à Marseille en particulier, actions BDS envers Puma. Puma, qui honte à lui, sponsorise l'OM, mais aussi les équipes de foot dans des colonies israéliennes illégales. Sur notre site, il y a aussi, dans la rubrique Agenda, beaucoup d'informations culturelles, avec, par exemple, ce week-end, la manifestation Palestine en campagne, organisée par nos amis de Fixouk, avec une magnifique programmation de 3 spectacles dans la saison culturelle 2023-2024 du Théâtre de la Joliette, avec la venue de notre ami caricaturiste de talent Mohamed Sabana, que nous avons déjà rencontré au Festival de la caricature de l'Estac il y a quelques années et qu'il sera à la librairie Transit et au Polygone étoilé. Une autre date à noter, le 6 septembre, nous aurons le privilège d'accueillir à la Baleine, le cinéma sur le cours Julien, le réalisateur du film Alan, il s'appelle Filas Khoury, et ce sera pour une avant-première de ce dernier film Alan qui regroupe des acteurs palestiniens de talent comme Mahmoud Bakri et Saleh Kass, mais aussi des jeunes palestiniens non professionnels qui, d'après la critique, sont excellents. Donc cette avant-première, le 6 septembre à 20h30 à la Baleine, est le fruit d'une collaboration d'acteurs marseillais à Flamme, IREMO Sud, la Ligue des droits de l'homme, le Festival Ciné-Palestine et bien sûr le collectif Palestine en résistance dont Palestine 13 est membre. Il y a aussi sur le site l'information sur l'exposition d'une photographe magnifique, Aslam Chiri, aux rencontres de la photographie d'Arles. Bref, visitez notre site internet et son agenda www.assopalestinerest.org. Vous y découvrirez le fruit d'un travail d'équipe de militants engagés et soucieux de partager l'information sur la vitalité incroyable de la Palestine et de sa culture. Militants que vous pourrez rencontrer le 3 septembre, car Palestine 13 aura un stand à la journée de la manifestation Vivacité qui cette année se tient sur le Vieux-Port à Marseille. En préparant cette émission et en faisant des recherches sur le site de l'agence Média Palestine, j'ai découvert un chanteur à la fois universel et très singulier, Fares Suleiman. C'est un pianiste, compositeur de jazz palestinien, qui a introduit des rythmes de tango dans ses compositions. Il écrit de la musique pour le théâtre et a collaboré avec le célèbre graffeur Bansky pour le morceau qu'il a créé à l'hôtel Waled Off à Bethléem. Son dernier réalisateur, Son dernier album, réalisé avec l'auteur et militant Majd Kenal, est intitulé « Better than Berlin, mieux que Berlin ». Il traite de la gentrification en cours à Haïfa et des monstres de la mondialisation qui entourent les villes palestiniennes. Le clip est sympa et vous le retrouverez sur le site de Palestine 13 aujourd'hui. Mais avant de découvrir cette chanson, je vais vous présenter ce qui suivra. Et j'ai choisi de nous proposer un élément de réflexion avec une conférence étonnante de notre ami Ziad Medouk, prof de français à Gaza, chercheur, poète et écrivain. Et c'est une conférence passionnante et émouvante sur la non-violence pratiquée au quotidien dans la bande de Gaza. La non-violence comme mouvement collectif et individuel et la non-violence arme de guerre, c'est très étonnant. Car pour Ziad Medouk, la solution militaire n'est pas possible, même si c'est celle que lance Israël. Et pour lui, la seule solution, c'est la paix et la justice. Donc, cette émission est tirée du site d'info gratuit gazaenfrançais.net. Ce site a été créé par des jeunes Palestiniens francophones de Gaza. Il offre un point de vue nouveau et concret sur la situation économique et culturelle à Gaza. La rencontre était organisée par le collectif Non-Violence 21. Merci à eux de nous permettre de découvrir cette réflexion détonnante. Place à la musique et ensuite à la conférence.
بجرب اكتب عالسطر رقصة افاعي اعمى الوان حبيبي لبق اواعي بجرب اكتب عالسطر رقصة افاعي اعمى الوان حبيبي لبق اواعي ولابس طقيت اخفى وواقف عالمراي في الف رامت فكرة بتشتب سماي بس العطش بشوي سمك عجمرة الغناي عكل حف الدرج في حيفة تكسر كعب بكل حارة ولد بحلم يربي كلب عكل حف الدرج في حيفة تكسر كعب بكل حارة ولد بحلم يربي كلب والشبح عم بشرب عرق برقص مع النسمة والبرد فار الضحك عم بتت العتمة الشمس عم تتلج بتولع الدفاي والعطش بشوي سمك عجمرة الغناي بكل صندوق خشب في لعبة خربانة وصورة لدون كيخوتي راكب عدباني بكل صندوق خشب في لعبة خربانة وصورة لدون كيخوتي راكب عدباني حشاش زارع ببيت وخابت أمل بحار خايف متخبي عراس الجبل شباك بكرا انكسر وانحرقت البردان والعطش بشوي سمك عجمرة الغناي بجرب اكتب عالسطر رقصة افاعي اعمى الوان وحبيبي لبق اواعي ولابس طقيت اخفى وواقف عالمراي في الف غامت فكرة بتشتب سماي بس العطش بشوي سمك عجمرة الغناي
Donc, bienvenue à toutes et à tous. J'ai l'impression que vous êtes pas mal à vous connecter depuis la France, mais notre invité, lui, est à Gaza. Il s'appelle Ziad Medouk. Avant de le présenter, je vais rapidement me présenter moi. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Prune et je suis salariée de Non-Violence 21 en tant qu'animatrice du réseau. Nous avons aussi François Marchand qui est là pour Non-Violence 21. Et donc, nous accueillons aujourd'hui pour cette télécauserie Ziad Medouk depuis Gaza, qui est professeur de français, chercheur, poète, écrivain. Donc, déjà, ça fait beaucoup de casquettes. Il est responsable du département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza. Et surtout, enfin, surtout, en tout cas aussi, partisan convaincu de la non-violence. Donc, ça sera le thème, évidemment, de cette télécauserie, la non-violence, mais la non-violence, donc, pas n'importe où, la non-violence à Gaza. Donc, là, j'ai entre mes mains le livre. Il a écrit différents ouvrages et évidemment aussi des poèmes. Donc, là, j'ai un livre qui s'appelle Être non-violent à Gaza, qui est un livre avec une forme assez originale, puisqu'il est composé de différents types de textes. Il y a des entretiens avec lui, mais aussi des poèmes, même quelques images, et puis quelques retranscriptions aussi de citations voilà, d'intervenants de conversations. Donc, bienvenue encore une fois. Ce qui est intéressant en introduction, bah, évidemment, on constate très rapidement qu'il y a être non violent à Gaza, c'est un sujet très original, en tout cas pour nous occidentaux, parce que quand on pense à Gaza, on pense surtout à la violence. Et justement, on est là pour ce soir pour contrecarrer ces idées reçues et montrer qu'en fait à Gaza, il existe aussi la vie et la vie par la non-violence, que la non-violence existe. Et évidemment, Ziane en parlera mieux que moi. Qu'elle peut être même efficace et plus que la violence, et voilà, que la vie existe dans un territoire où pourtant, voilà, les habitants et les habitantes qui sont enfermés, hein, on peut le dire, vivent beaucoup de violence. Et pourtant, il y a de l'espoir. Donc ça c'est un résumé vraiment très très résumé du livre, puisque je vais laisser la parole à Ziad Medouk pour aller plus loin, pour nous expliquer la démarche de ce livre. On y parle évidemment de désobéissance civile. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, vous m'arrêterez si je me trompe, que la non-violence, en fait, vous me l'avez dit aussi, c'est qu'elle se pratique non pas de manière théorique, mais sur le terrain, ne serait-ce que vivre, prôner la vie. Étudier, transmettre de la culture, etc., et est une forme de non-violence, et communiquer, en fait. Voilà, tout ça, ça fait partie du spectre de la non-violence. Donc, je vous laisse prendre la parole, Ziad. Si vous voulez compléter la présentation que j'ai faite sur vous, et puis après sur le livre, n'hésitez pas. Et puis aussi, je lance déjà la question parce que le livre, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà entre les mains, mais donc date de quelques années. Et aussi, la question, ça sera où en est-on aujourd'hui, en 2023, de tout ça et du rapport des Gazaouis à cette non-violence. C'est à vous, Ziad.
Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir d'échanger depuis Gaza avec vous, les amis francophones. Et donc, merci beaucoup à Non-Violence 21, à François Marchand, à Brune, à tous les amis. Je vois qu'il y a Laurent Bedouin, Anna, d'autres amis qui, j'oublie les noms, mais qui sont connectés. Donc, merci pour votre présence. Donc, pendant 30 minutes de la situation actuelle en Palestine et en particulier dans la bande de Gaza, mais je vais entrer directement dans le fil du sujet. Ça veut dire, c'est quoi être non-violent à Gaza? Ça veut dire, comment être non-violent dans une région violente? Donc, parce que les médias, malheureusement, elles parlent toujours de Gaza comme une d'occupation, de violence, des factions, des missiles, des bombardements, et rarement qu'il parle de la vraie situation, ça veut dire que la vie continue dans la bande de Gaza. Donc, rapidement, en 5 points, je vais parler de la situation actuelle en Palestine en général et dans la bande de Gaza en particulier. Après, comment les Palestiniens résistent, parce que nous sommes occupés, comment on résiste face à l'occupation, à la colonisation, et surtout, comment la résistance par l'éducation, par la non-violence fait partie donc la résistance palestinienne. Après, je vais parler du rôle de la société civile, les femmes, les enfants, l'économie, les paysans et les pêcheurs. Et après, donc, je vais parler comment on fait, comment les protagonistes de la non-violence essayent un peu de développer des actions non-violentes donc, dans la bande de Gaza. Donc, voilà en général pour le résumé donc, de mon intervention devant ce public donc nombreux et voilà. D'abord, pour parler de la situation dans la bande de, en Palestine et dans la bande de Gaza en particulier. Donc la situation actuelle en Palestine, elle est marquée par la colonisation, l'occupation, la force de l'occupation et on dans la bande de Gaza humain imposée d'une façon illégale depuis 16 ans sur une population civile, donc 2 millions, plus de 2 millions de Palestiniens qui vivent dans une situation terrible, blocus, bombardement, une population qui a subi donc 4 grandes offensives. Grandes offensives, ça veut dire des offensives plus d'une semaine. C'était les offensives de 2019, 2012, 2014, 2021, mais des petites offensives comme la dernière offensive de 3 jours en mai. Et donc, les grandes offensives, ils font souvent entre 200 à 1000 morts. Et les petites offensives, c'est autour de 30 à 50 morts sans oublier les blessés et la destruction massive. Mais la situation qui règne, c'est l'absence de perspective parce que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. D'une part, il y a une occupation. Il y a un peuple occupé, c'est le peuple palestinien. Il y a une occupation israélienne qui utilise tous les moyens illégaux, utilise donc la violence, utilise donc les armes, utilise donc le blocus, utilise l'embargo, utilise les incursions, utilise la colonisation pour écraser donc une population résistante. Mais il y a une population civile, une population des territoires palestiniens qui essayent de résister par tous les moyens. Et en fait, soit à résister par tous les moyens. En Palestine, il y a 4 formes de résistance. Il y a la résistance armée. C'est une résistance donc, légitime, donc, menée par des factions palestiniennes, soit à Gaza, soit en Cisjordanie. Il y a la résistance politique à travers les négociations de paix, à travers la diplomatie palestinienne. Et il y a la résistance par la non-violence. Ça veut dire les Palestiniens qui résistent par les actions non-violence, défier les soldats israéliens sur les frontières, devant les colonnes illégales, devant les maisons menacées par être détruites par l'armée d'occupation. Mais la dernière forme de résistance, le plus important, c'est l'attachement, c'est-à-dire la résistance et la résilience de toute une population. Une population qui résiste même à côté des colonnes illégales en Cisjordanie, même au pied d'un mur illégal construit d'une façon illégale par l'armée israélienne en 2002, pour résister à côté des ruines, des maisons détruites et des infrastructures civiles détruites dans la bande de Gaza. Donc, voilà les formes de résistance. Maintenant, comment développer la résistance à la non-violence? La non-violence, pour nous, la non-violence est différente de l'action non-violente pratiquée. Pour apprise donc dans des universités, dans des centres, dans des associations, ou dans des protagonistes de la non-violence. La non-violence en Palestine, dans la bande de Gaza en particulier, c'est une non-violence pratique. C'est pas une non-violence seulement théorique. Ça veut dire, il y a une anecdote pour la non-violence en Palestine. Si vous parlez avec n'importe quel Palestinien, n'importe quel observateur, il va dire c'est faux de parler de la non-violence. Parce que on n'a pas ni de protagonistes de la non-violence, ni des enseignements, ni des C'est-à-dire, il n'y a pas de leçons à donner, il n'y a pas des modules de la non-violence. Donc, la non-violence est pratiquée. Donc, on est passé directement. Donc, si vous demandez à quelqu'un qui défiait le soldat israélien par un drapeau ou avec sa poitrine nue devant une colonne illégale ou devant la frontière de Gaza, si vous avez lui demandé est-ce que vous connaissez Martin Luther King ou Jean-Marie Miller, il a dit non, aucune idée, j'ai jamais entendu. Mais lui, il pratique la non-violence, ça veut dire il défie l'occupation, il a choisi, il n'a pas choisi l'action militaire, c'est son choix. Il n'est pas convaincu des négociations de paix. Donc, il est convaincu de l'importance de la non-violence. Donc, défier l'occupation, c'est fait partie de la non-violence. Après, on a la société civile. La société civile, soit en Palestine, soit dans la bande de Gaza. Donc, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe en Palestine? On ne peut pas épargner, on ne peut pas écarter la bande de Gaza. Mais comme la situation géopolitique est un peu particulière dans le territoire palestinien, je suis obligé à parler de Gaza parce que je suis citoyen de Gaza. Mais qu'est-ce que je vais pas en parler? C'est valable pour la Cisjordanie, pour les territoires de 48, pour Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous sommes isolés. Parce que nous, moi, par exemple, pour Palestinien de Gaza, je peux pas aller à Jérusalem, je peux pas aller en Cisjordanie. Alors, militaire israélien, même chose pour les Palestiniens de la Cisjordanie. Ça veut dire, si moi, je vais rencontrer un collègue universitaire prof de français ou un collègue universitaire chercheur de la Cisjordanie, souvent on se voit soit en Égypte, soit en Algérie, soit en France, ici les francophones, parce qu'on ne peut pas se voir en Palestine, parce que c'est interdit pour nous. Donc, ou on se voit par Zoom ou virtuellement. Donc, ça montre un peu qu'il n'y a pas une continuité géographique. Donc, pour parler de la bande de Gaza, parce que je vis dans la bande de Gaza, je suis un Palestinien de Gaza, Gaza, d'abord, fait partie intégrante de la Palestine, mais Gaza est isolé. Donc, si on va parler des territoires palestiniens, nous avons quatre territoires, qu'il n'y a pas une quantité géographique. Il y a la bande de Gaza dans le sud, à la frontière avec l'Égypte, qui se bien un blocus isolé. Il y a la Cisjordanie occupée, qui il ne reste rien, il ne reste même pas 13% de la Cisjordanie, parce que la colonisation, il a avalé tous les territoires de la Cisjordanie. Il y a Jérusalem, une ville sainte, une ville donc ouverte à tout le monde, à toutes les religions, mais une ville encerclée par l'occupation. Il y a les territoires de 48, ça veut dire qu'est-ce qu'il reste des Palestiniens qui ont été obligés de fuir leur maison en 48 suite à la création de l'État israélien et les massacres israéliens. Ils ont obligé plus de 900 000 Palestiniens de laisser leur territoire de 48 et le reste, ils sont devenus aujourd'hui 3 millions, mais ils ne vivent pas une situation normale. Ils ont la nationalité israélienne, mais ils n'ont pas le droit d'un citoyen donc israélien. Donc, je vais parler de la non-violence dans les territoires palestiniens et surtout dans la bande de Gaza. Parce qu'ici, il y a une autre contradiction, que la non-violence était développée davantage en Cisjordanie. Jusqu'à, on peut dire, 2012-2013, on ne parle jamais de la non-violence à Gaza. C'est utopique. Mais aujourd'hui, on a commencé à en parler. On a dit que la non-violence. Pourquoi? Parce que la non-violence en Cisjordanie, il y avait, après surtout la deuxième intifada, en 2006-2005, il y avait beaucoup d'actions non-violentes. Et ces actions étaient très intéressantes parce que c'était pas seulement des actions palestiniennes, mais des actions internationales. Donc, parmi ces actions, il y avait empêcher, par exemple, les bulldozers israéliens de détruire des maisons appartenant à des Palestiniens, soit à Jérusalem, soit en Cisjordanie occupée. Il y avait des manifestations pacifiques à côté des colonies. Il y avait des manifestations pacifiques au pied de murs, le mur d'apartheid qui a été construit en 2002. En fait, ce mur, il ne sépare pas Palestiniens et Israéliens, mais il sépare les Palestiniens, les villageois palestiniens de leur terrain. Il sépare les écoliers et les élèves palestiniens de leurs écoles. Il sépare les étudiants palestiniens de leurs universités. Donc voilà, sans oublier 320 checkpoints dans les territoires palestiniens occupés, notamment en Cisjordanie, qui empêchent la circulation entre les villes et les villages palestiniens. Donc, il y avait des Palestiniens, des Israéliens, des pacifistes israéliens, que je tiens à le saluer, et les internationaux qui, à l'époque, pouvaient venir en Cisjordanie occupée pour soutenir les Palestiniens. Et donc, il y avait des actions palestiniennes, mais soutenues par l'international. Gaza, on ne parlait pas de ces actions. C'est seulement après, en 2014, il y avait une grande offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, qui a duré 50 jours, qui a fait 2000 morts, 2000 blessés, destruction massive de 30%. Après, les Palestiniens de Gaza, ils ont compris que c'est difficile de défier cette occupation, cette armée. Donc, il y avait un rôle très important de la société civile. Et quand je dis société civile, ça veut dire les paysans, les pêcheurs, les femmes, les associations de société civile, qu'ils ont commencé à faire des réunions pour dire c'est difficile pour nous de laisser les factions militaires résister seules. Parce que quand on parle de Gaza, on parle de Hamas, de Jihad, des factions militaires. On néglige la société civile. En fait, je pense que la négligence de la non-violence, elle était voulue pas seulement par les Israéliens, parce que les Israéliens, l'armée, je parle des Israéliens. Quand je parle des Israéliens, je ne parle pas de la population, je parle soit de l'armée, soit de régime d'apartheid, de l'occupation, de régime. Je ne parle pas de la population, parce que la population israélienne, c'est le peuple. Donc, nous, on parle de régime d'apartheid, on parle de l'État colonial, on parle de régime, on parle de gouvernement israélien selon l'extrême droite. Mais, donc, quand je dis les Israéliens, c'est ça. Et donc, pour l'armée d'occupation israélienne, ils préfèrent toujours les factions militaires, parce que c'est facile à tapasser, c'est facile à bombarder. Parce que les Israéliens, l'armée israélienne, elle attend n'importe quelle roquette, n'importe quel missile, qui souvent ne fait pas beaucoup de dégâts côté israélien, parce que l'armée d'occupation, c'est la cinquième puissance militaire, c'est une réalité. Et les factions, elles résistent par leur façon, mais c'est leur façon de résister. Ils ont choisi leur résistance militaire que nous, on ne peut pas critiquer. C'est une résistance légitime. Mais la société civile, elle a commencé à réfléchir, elle a dit pourquoi nous, on ne développe pas des actions. Donc, il y avait des réunions entre 2015 jusqu'à 2016. Et après, la société civile, femmes, associations, paysans, ils ont dit pourquoi pas aller, comme en Cisjordanie, sur les frontières pour défier l'occupation. Défier l'occupation par des actions pacifistes, par des actions non violentes. Parce que Gaza, après 2005, il y avait un retrait israélien. Parce que l'occupation israélienne, elle a commencé dans les guerres de 5 jours, entre le 5 et le 7 jours. Et l'occupation, elle a occupé tous les territoires palestiniens. Après, il y avait la première occupation en 48. Ils ont occupé les territoires de 48. Et en 1967, tous les territoires palestiniens, l'ensemble des territoires palestiniens, ils ont été occupés après la guerre des 6 jours, c'est-à-dire la bande de Gaza, Jérusalem et la Cisjordanie, donc toute la Palestine est devenue occupée. C'est seulement en 1994, après le retour de l'autorité palestinienne, après les accords d'Oslo, que les Palestiniens ils ont récupéré quelques territoires. Pas tous les territoires, ça veut dire même les accords d'Oslo, ils n'ont pas été respectés par les Israéliens. Et donc les Palestiniens, après 1994, et il y avait le retrait. Donc, mais quand l'armée de l'occupation est se retirée de Gaza, il a gardé 13 colonies. Et dans ces colonies, et donc il y avait presque 1800 colons qui contrôlaient 75% des meilleurs terrains et de meilleurs puits d'eau. Et donc, voilà. Donc, entre 1994 et 2005, les Palestiniens vivaient dans le territoire autonome, mais il y avait des barrages militaires israéliens et il y avait la présence des colonies illégales. C'est seulement en octobre 2005 qu'il y avait une partie, il y avait le plan de Sharon de se retirer de la bande de Gaza, et donc il y avait le retrait total de ces colonies. Donc il y avait la démantelation de toutes ces colonies illégales et le retrait de 1800 colons. C'est à partir de octobre 2005 que tous les territoires de Gaza sont devenus libres, en parenthèse, mais l'armée de l'occupation, elle a gardé 3 zones tampons. Zones tampons, ça veut dire un espace de 500 mètres dans la ville de Gaza, à l'est de la ville de Gaza, au nord de la bande de Gaza et au sud de la bande de Gaza, c'est-à-dire des 3 zones tampons qui appartiennent à l'armée de l'occupation. Donc, il y avait des miradors, il y avait des tanks, il y avait des chars israéliens qui ils ont créé ces zones tampons et ces zones tampons contrôlées par l'armée de l'occupation. C'est à partir et dans ces zones tampons que les Palestiniens, ils ont commencé en 2017 d'aller pour résister à leur façon. Ça veut dire qu'il y avait la résistance militaire par les factions, mais il y avait la résistance la résilience de la société civile qui est toujours là, mais il y avait le développement des actions publiques, des actions non violentes, visibles, d'accord? Et donc, ils sont allés sur les entrepôts où il y avait des soldats. Le problème, que la répression et la réponse israélienne qui sont sanglantes, ça veut dire qu'il y avait des snipers israéliens qui se sont regroupés dans les entrepôts pour tirer sur la foule. Ça veut dire chaque vendredi, entre 2017 et 2018, ça durait un an. Et il y avait chaque vendredi entre 10 000, 15 000, 30 000, selon l'occasion, selon la foule, pour aller donc sur les trois entrepôts au centre, au sud et au nord de la bande de Gaza pour défier les soldats israéliens avec seulement le drapeau palestinien. Seulement. Il n'y avait ni armes, ni rien du tout. Et donc, ces actions visibles, c'était un tournant parce que c'est la première fois dans l'histoire de la bande de Gaza que les Palestiniens de Gaza n'utilisent pas les armes. Ils utilisent seulement les actions visibles publiques. Et donc, malheureusement, les médias occidentaux, ils ont participé à promouvoir la résistance militaire. Ils ont abandonné la non-violence. C'est-à-dire les journalistes étrangers, quand ils viennent pour couvrir la marche de retour en 2017, ils ne parlaient jamais des actions pacifiques, mais ils parlent de la riposte de l'armée israélienne. Vous voyez un peu, parce que les médias, ils cherchent toujours la clash. Ils ne parlent jamais de rôle des femmes, ils ne parlent jamais des paysans, ils ne parlent jamais des armes, des pêcheurs, ils parlent seulement quand il y a des clashs, des morts, des bombardements. Et donc, c'est entre 2017 et 2018 qu'il y avait une année terrible, parce qu'il y avait presque 700 morts palestiniens, des amputés, parce que les snipers tirent sur eux. Mais il y avait un changement stratégique dans la lutte palestinienne. Et donc, la non-violence qui était développée en Cisjordanie, elle est devenue, donc, elle a dépassé les factions. Et donc, la société civile, elle a attiré le monde. Le monde entier est devenu solidaire de la société civile parce que la société civile, il y avait les personnes âgées, les femmes, les enfants, les jeunes, les lycéens, les danseurs, les tapkats, les musiciens qui vont chaque vendredi. C'est comme la fête de l'humanité chez vous à Paris où il y avait des milliers de personnes qui font la fête. Il y avait des concerts, il y avait des repas, il y avait des échanges, il y avait des danses populaires tapkats. Et donc, c'était une mobilisation donc non violente, et donc on peut dire qu'on dans le dictionnaire de la lutte palestinienne, la non violence elle est développée. Donc après, malheureusement, cette marche de retour s'est arrêtée en 2019 parce qu'il y avait la crise sanitaire. Après, il y avait l'offensive de mai 2021, et après il y avait beaucoup d'événements politiques et militaires qui ont empêché donc les Palestiniens à continuer cette marche. Mais c'était une expérience magnifique parce que elle a montré que la non violence pourra être une solution. Et la résistance, on ne peut pas compter sur les factions. Même si les factions, ils ont le droit légitime de résister, c'est leur façon. Mais on a ajouté une troisième forme de résistance, c'est la non-violence. Et donc ça, il nous guide de parler de quatrième mois, ça veut dire le rôle de la société civile. La société civile, ça veut dire les femmes, les paysans, les pêcheurs, les jeunes. Et tout cela, il s'est développé. Et donc, il y avait, on peut pas dire qu'il y avait un recul, parce que nous, dans notre stratégie de la non-violence, on ne critique pas les autres. On laisse les autres, ça veut dire les factions militaires, l'autorité palestinienne, les négociations de paix, faire leur travail. Et nous, on essaie de développer. Donc nous, on s'est approché des jeunes, les protagonistes de la non-violence, surtout les protagonistes pratiques, praticiens et pas seulement théoriciens et professeurs universitaires, parce que nous, on est descendus sur le terrain. Et donc moi, comme professeur de français, avec les étudiants, avec les diplômes de français, on a essayé de développer des actions. On est allé plusieurs fois sur les entrepôts pour participer à la marche du retour. On a donné des cours, on a donné des explications, on a fait des zooms avec des spécialistes de la non-violence en France, dans les pays francophones, et on a développé des actions de bénévolat avec les jeunes. On organise des séances d'animation de soutien psychologique pour les enfants. On aide les paysans dans leur activité agricole. On aide les pêcheurs quand ils travaillent dans la mer de Gaza pour pêcher. Et donc, on a essayé de développer des actions non violentes et l'action. Mais je pense que l'éducation et l'enseignement et la culture, ils se sont développés, ils sont devenus une forme de résistance. Et donc, on a essayé, je parle maintenant de mon expérience personnelle, parce que toujours il faut passer par des expériences personnelles pour bien expliquer la situation. On a commencé à développer des actions en français. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des jeunes, soit les étudiants, soit les diplômés de français. Parce que quand on parle des jeunes à Gaza, ça veut dire le désespoir. Quand je dis l'absence de perspective, ça veut dire les jeunes. Les jeunes, soit les étudiants, surtout les diplômés, parce que le taux de chômage, il dépasse 52% dans la bande de Gaza, une région qui vit le blocus, les bombardements israéliens, la situation économique difficile, les difficultés économiques, sociales, difficultés de faire entrer les matériaux de construction après chaque bombardement, après chaque destruction massive des infrastructures civiles. Donc, on a essayé de remonter le moral des jeunes. Comment remonter le moral? Il faut s'approcher, il ne faut pas laisser. Parce que si on va laisser les jeunes, soit ils vont aller voir les factions militaires, soit ils vont immigrer. Et nous, notre objectif, c'est ne pas faire partir les jeunes, c'est garder les jeunes. Mais pour garder les jeunes, il faut leur donner un espoir. L'espoir, c'est quoi? Trouver un travail, trouver des activités de bénévolat. Qu'est-ce qu'on fait? Je parle de mon expérience au niveau de français. Et donc, la bande de Gaza enfermée, donc on fait beaucoup de Zoom avec des francophones. Et parmi la présence, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des Zoom avec nous. Il y a des associations qui nous soutiennent, il y a des structures qui aident les jeunes par des projets. Donc on a réussi à développer la francophonie dans la bande de Gaza, mais dans une démarche non violente, une démarche basée sur la culture, sur le rôle des femmes, encourager les échanges entre les femmes, développer des projets, surtout la solidarité. La solidarité sociale et familiale est devenue une priorité pour nous. Et donc, en résumé, on peut dire que, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas être très long comme ça pour laisser des questions précises. Mais pour nous, le plus important, on a réussi à développer des actions non violentes, surtout on a réussi à maintenir les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont désespérés avec le chômage, avec les bombardements, avec le blocus. Beaucoup des jeunes, ils ont commencé à immigrer, à quitter. Mais on a un phénomène par rapport aux jeunes qu'ils ont quittés. Entre 2014 et 2022, il y avait 23 000 Palestiniens qui sont partis après chaque bombardement. Il y a 13 000 qui sont retournés. Ça veut dire que les jeunes, ils ont été convaincus que il faut mieux résister à Gaza, mieux d'aller, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas trouvé la belle vie en Europe ou d'autres pays. Donc, ça montre un peu que les gens sont très attachés. Donc, l'attachement à la terre fait partie de la résistance par la non-violence. L'éducation, la culture, la résilience, tout cela fait partie de la résistance par la non-violence. Et donc, puisqu'on parle avec un public francophone, donc je vous conseille 3 références comme ça pour davantage d'informations, parce que c'est difficile en 30 minutes, une heure de répondre à toutes les questions. Et donc, vous avez d'abord une page Facebook qui s'appelle Gaza la vie. Gaza la vie, c'est une page créée par des jeunes francophones qui s'appelle Gaza la vie. Après, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Gaza la vie. C'est une chaîne qui parle un peu des événements donc culturels. Après, récemment, l'année dernière, il y a le site Gaza en français. Le site Gaza en français qui réussit très, très bien. Il parle rarement des aspects politiques, même si la politique fait partie de notre contexte. On ne peut pas négliger, donc, parce que la politique, c'est, et surtout l'aspect. Mais l'avantage de ce site Gaza en français, qui était choisi le meilleur site étranger dans la bande de Gaza, qu'il parle des événements sociaux, économiques, culturels. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est une initiative et toutes les structures sont bénévoles. Ça veut dire des jeunes bénévoles. Soit étudiants, soit... Donc, je pense parmi nos réalisations, on a beaucoup d'échecs, on a beaucoup de réussites. Parmi nos réalisations, donner la chance aux jeunes de créer, d'inventer. Et je pense l'expérience de Gaza la vie, la chaîne YouTube. Nous, moi, j'essaie de l'aider en diffusant les informations parce que j'ai un réseau de monde francophone, mais l'initiative vient des jeunes, ça veut dire Gaza en français, c'est une excellente parce que ça fait 9 mois qu'il était créé. Malgré ça, il y a des milliers de gens qui regardent parce qu'il parle des événements et vous trouvez dans ce site des choses que vous n'aurez jamais imaginées parce qu'on parle des associations des femmes, des associations sportives, des clubs, il parle. Et donc, il y a jusqu'à maintenant 2300 publications en 9 mois sur Il y a des événements d'actualité, elle parle de la solidarité, elle parle des événements, elle parle des échanges avec les francophones, mais surtout, elle parle des événements socioculturels, économiques dans la bande de Gaza. Elle parle de la pêcheur, les pêcheurs palestiniens, mais dans une vision plus ou moins humaine, pas une vision plus ou moins encerclée, véhiculée par les médias, que les pêcheurs, oui, il y a une réalité, que les pêcheurs souffrent de l'attaque de marine israélienne. Mais les pêcheurs, c'est quoi? Il y a 1300 pêcheurs qui travaillent avec volonté, avec détermination. Il y a les paysans qui travaillent malgré les attaques des soldats, malgré les attaques contre les incursions, la destruction de leur maison. Il y a une société civile. On a 2300 sociétés, des femmes, des enfants, de formation. On a des universités. On a 10 grandes universités avec presque 120 000 étudiants. Et donc, tout cela, dans le site Gaza en français, vous trouvez toutes les informations sur la situation actuelle. Et donc, il est devenu un site référence sur la situation. Et parmi, si on va parler de la non-violence, il y a beaucoup d'événements non-violents dans la bande de Gaza. Des conférences, des actions, défier les soldats sur les entampons, faire des manifestations pour dénoncer l'occupation, la colonisation. Donc, tout cela, on le trouve. Donc, en conclusion, j'arrête là-dessus, que la non-violence, il y a 5 caractéristiques de la non-violence en Palestine en général et dans la bande de Gaza. D'abord, que la non-violence est pratique. Ça veut dire qu'on passe directement à l'acte. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'enseignement dans les universités, il n'y a pas des cours, mais les gens, voilà. Numéro 2, la non-violence, elle est mal circulée. Ça veut dire même dans les médias palestiniens, je ne parle pas des médias étrangers, on parle rarement de la non-violence. Il existe, mais voilà. Les médias palestiniens, c'est comme les médias occidentaux. Ils parlent toujours des clashs. C'est toujours à la une. Quand il y a un bombardement à Gaza, c'est toujours à la une. Mais quand Ziad Midouk fait une activité de bénévolat avec les paysans, c'est rare que les médias donc couvrent ça, ou les médias étrangers, ou les médias palestiniens. Donc, troisième élément, que pour la non-violence, elle est en développement. Elle est en essor, en plein essor. Ça veut dire les gens, ils sont convaincus que la non-violence, ça veut dire, on peut dire que la non-violence est devenue forme de résistance. On a ajouté la non-violence, voilà. Après, quatrième élément, que l'attachement à la terre et la résilience pour les Palestiniens fait partie de la non-violence. Ça veut dire être, voilà, ça veut dire pour un jeune Palestinien, rester à Gaza, même à côté des ruines de sa maison détruite, même en plein chômage, même en absence de perspective. Donc, ça fait partie de la non-violence, fait partie de, voilà. Et donc, et après, cinquième élément très important, qu'il y a, on peut dire, un intérêt. Ça veut dire, même les factions militaires, par exemple, je vous donne un exemple concret. Comme moi, j'ai publié, et donc, je remercie Laurent Benoît qui est avec nous, pour la publication qui fait partie de Culture AP, l'édition qui a publié, donc, mon livre, Être non-violent à Gaza. Donc, j'étais invité par des chaînes de télévision, des factions palestiniennes. Et j'ai été contacté par des factions palestiniennes. Je parle de mon expérience personnelle, bien sûr, cette expérience peut être valable pour les hispanophones, pour les anglophones, pour les germanophones, et moi, je me suis francophone. J'ai été contacté par des télévisions, des chaînes de télévision, par des sites pour faire des entretiens. Ils ont commencé à s'interroger sur le contenu du livre. Ils ont commencé à découvrir que, voilà, même des paysans, des pêcheurs et des associations, ils ont dit, nous, Ziad, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous, on le pratique au quotidien, vous voyez? Mais nous, malheureusement, on n'a pas réussi à circuler. Vous, Ziad, vous avez réussi à écrire, vous avez réussi à publier ça, vous avez réussi à montrer ça au monde francophone, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous, on le pratique. Ça veut dire, les paysans, quand ils vont travailler leur terrain, et il y a beaucoup de paysans qui ont été tués, laissés, ou les pêcheurs, malgré les attaques de la marine israélienne, et beaucoup des bateaux de pêche, ils ont été confisqués, beaucoup des pêcheurs, ils ont été blessés, morts. Mais malgré ça, il y a toujours des pêcheurs qui vont aller pour pêcher, pour faire travailler leur maison, et pour amener une quantité de sardines, des poissons pour les, voilà. Et donc, la société civile qui est toujours là, les Palestiniens qui ont commencé à... Donc, la non-violence, malgré donc nos intérêts des médias, on peut dire, même les factions militaires, ils ont commencé à s'intéresser, et même la société civile. Donc, la non-violence, elle s'est ajoutée au type de résistance. Donc, la résistance militaire, la résistance politique, l'attachement à la terre et surtout la non-violence. Donc, on a ajouté une quatrième forme de résistance, donc la non-violence. Donc, Pauline, rapidement, comme dernier mot, il y a beaucoup de gens qui sont un peu désespérés, soit en Palestine, Gaza, dans le monde, et disent, oui, mais Comment vous pratiquez la non-violence dans une région violente? Au contraire, ça, c'est notre force. Voilà. Donc, moi, par exemple, personnellement, je n'imagine jamais Ziad Meddou vivre en dehors de Gaza. Gaza, c'est ma vie. Même si je souffre, Gaza, c'est quoi? Coupure d'électricité, mauvaise connexion Internet, je ne peux pas voyager facilement. Et il y a beaucoup de denrées alimentaires qui manquent, il y a beaucoup de médicaments qui comptent. Bombardement toutes les 3-4 mois, donc même à côté de chez moi, il y a des morts de ma famille. Donc, vous voyez un peu donc, le contexte. Je ne veux pas donner un cours facilement. Je rencontre toujours des jeunes désespérés, mais ma force, c'est ici. Donc, mon rôle, c'est rester à côté. Donc, ça, c'est ma force. Donc, la non-violence est pratiquée. Moi, je pratique la non-violence. J'encourage les jeunes. J'ai réussi, j'ai échoué, mais je continue. Je suis convaincu de l'importance de la non-violence. Donc, c'est un numéro 1. Numéro 2, c'est plus important, que la non-violence pourra être solution. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais une solution militaire de ce conflit. Depuis 1976 jusqu'à 2023, combien des 60, plus de 60 années de souffrance, mais ni les Palestiniens, ils ont réalisé leur revendication, ni les Israéliens, ils sont retirés du territoire palestinien. Le combat est toujours poursuivi, mais nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais une solution militaire. La seule solution, c'est la paix. La seule solution, c'est... Et la non-violence fait partie de nos espérances pour la paix. Et donc, on ne peut pas négliger la non-violence. Il ne faut jamais négliger la non-violence. Mais le fait de rester, résister à Gaza, fait partie de la non-violence. Et donc, avec la mot non-violence, paix et espoir, je m'arrête ici.
Pour terminer cette émission, une autre découverte musicale de ce même article de l'agence Média Palestine que vous trouverez aujourd'hui sur notre site internet. Donc, nous allons découvrir une chanteuse palestinienne d'avant-garde, Racha Naas. La scène musicale palestinienne est décidément d'une vitalité et d'une créativité étonnante. Racha Naas, dans ce morceau que nous allons écouter, Désert Naas, chante en anglais avec douceur des émotions ravagées, de la violence subtile, de l'espace et de l'identité et du temps. Bonne écoute et bonne semaine estivale à tous nos auditeurs et à Sidi, notre technicien fidèle de Radio Galère, qui nous accueille chaque mercredi. Nous écoutons la chanteuse palestinienne Désert Naas.
Song. woman and a child. And she couldn't live at home, she said. She wandered lost and she wandered west, to the place where the Bible spoke of God, all their temples and their flesh. They hung her on a cross. She is a language no one dares.
Shut up.